femme qu'on a connue comme la première navigatrice à avoir accompli un tour du monde en solitaire à la voile. C'était en 1991 et cet exploit l'a rendue très populaire. Une popularité qui n'a pas été démentie par son engagement indéfectible pour la préservation de la nature, notamment au sein du WWF qu'elle préside, au point qu'une rue porte désormais son nom à Plescope dans le Morbihan. Mais à côté de cet engagement, elle s'est aussi lancée il y a quelques années dans l'écriture, avec des romans comme « Seule la mer s'en souviendra » ou encore « Soudain, seul » qui a été publié en 2015, qui est traduit dans 10 langues et qui est même en cours d'adaptation au cinéma. Son dernier roman vient tout juste de sortir sous le titre « Oublier Clara ». Isabelle Autissier, bonjour.
Bonjour.
Et merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Je disais qu'une rue portait votre nom maintenant à Plescope dans le Morbihan. Ça fait quoi d'avoir une rue à son nom ?
Ça fait un peu vieillir, ça donne un petit coup de vieux quand même. On a l'impression de commencer à faire partie des meubles. Mais bon, après, je suis aussi flattée parce que c'est un hommage. Mais il y a aussi un collège qui porte mon nom. Donc ça, c'est la jeunesse, c'est l'avenir. Donc c'est bien aussi.
Ah bah voilà, finalement, vous êtes à tous les âges, Isabelle Autissier. Bon, vous êtes à tous les âges et vous êtes un peu partout. Parce que là, vous n'êtes pas à Plescope dans le Morbihan. Mais vous êtes avec nous en duplex depuis les studios de France Bleu La Rochelle. Est-ce qu'il y a un rapport entre La Rochelle, où vous vous trouvez, et ce port Mourmansk, où vous situez votre roman Oublier Clara?
Alors, a priori, je pense pas. C'est peut-être moi qui suis le lien entre tout ça, puisque Oublier Clara, ça vient d'un voyage que j'effectue à Mourmansk en compagnie d'Éric Orsena quand on a écrit notre livre sur le Grand Nord. Et un peu du saisissement, au fond, que j'ai ressenti dans cette ville, qui est une ville qui a une histoire extrêmement forte, mais qui aujourd'hui est une ville, en déconfiture complète, en décrépitude, et qui est très romantique. Manesque en fait, par elle-même.
Alors comment justement, depuis un lieu qui vous saisit, Isabelle Autissier, vous avez inventé cette histoire qui raconte celle de Youri, qui est un jeune ornithologue russe qui a fui la violence familiale, qui a émigré aux États-Unis et qui revient au pays alors que son père agonise. On est à l'hôpital de Mourmansk, au-delà du cercle polaire, et c'est alors que ressurgit l'histoire, l'énigme même de Clara, la grand-mère qui était elle-même une scientifique et qui a disparu au cours des années 50. Comment on invente une histoire pareille alors qu'on est à Mourmansk et que, si je ne m'abuse, vous n'avez pas grand-chose à voir avec la Russie vous-même?
Non, pas du tout. J'ai pas d'ancêtres, personne chez moi n'a connu le goulag, heureusement. Non, je crois que ce qui m'a frappé dans cette ville, c'est, vous savez, on parle beaucoup de résilience, c'est un mot très à la mode en ce moment, mais c'est très approprié, c'est-à-dire que quand on va dans cette ville qui se délite complètement, il y a quand même des gens qui vivent au jour le jour, il y a des enfants dans les rues, et du coup, c'est la première idée que j'ai eue, c'est, comment des gens arrivent à passer à travers ce qu'ils vivent aujourd'hui et à travers toute cette histoire extrêmement lourde de l'URSS, puis du passage à la Russie. Et au fond, ces petites histoires dans la grande histoire, je suis un peu partie sur cette idée-là. Et puis, la deuxième idée qui est venue aussi tout de suite en même temps, c'est ce côté secret de famille. Je crois que presque toutes les familles en ont, où ils sont plus ou moins lourds et plus ou moins impactants. Mais au fond, c'est aussi comment est-ce qu'on est le produit, pas seulement de sa vie, de ce qu'on a vécu depuis qu'on est enfant, mais aussi de la vie de ses parents, éventuellement de la vie de ses grands-parents, et tout ce qu'il y a autour du non-dit.
Est-ce que les personnages de Mourmansk, qui peuplent Oublier Clara, Isabelle Autissier, sont nés de certains que vous avez vus dans les rues de Mourmansk? Vous le dites vous-même, la légende familiale, vous l'écrivez plus exactement. C'est une grand-mère énergique et sensible jusqu'à l'imprudence. C'est un grand-père aimant mais faible et veule, un père tenu de se battre dont la brutalité avait dévoré la vie, une mère inexistante qui s'était dévolue aux objets puisque les êtres la décevaient, et au final, lui, Youri, dont l'enfance avait été imprégnée de ses espoirs, de ses combats, de ses renoncements, un destin identique à celui de millions de familles tourmentées par les soubresauts de l'histoire avec un grand H, et qui cachaient un cadavre dans le placard, croyant ainsi se faciliter la vie.
Oui, c'est vraiment le sujet du roman. Alors après, est-ce que c'est en croisant les gens à Mourmansk? Pas forcément, mais je crois que la magie du roman et de l'imagination, c'est de marier des souvenirs personnels, des émotions personnelles, mais aussi des gens qu'on a croisés plus ou moins proches. Donc je crois que tout ça, finalement, se réemboîte, fait une sorte de puzzle qui, à la fin, fait un roman. Un roman, à partir du moment où il n'est pas du tout autobiographique, il est forcément inspiré par, j'allais dire, des centaines de rencontres. Clara n'existe pas, pas plus que Yuri, pas plus que Rubin, le père, mais ils sont chacun d'entre eux, sans doute, le mariage de dizaines de personnes différentes que j'ai pu rencontrer.
Vous dites, Isabelle Autichier, que vous avez été saisie à Mourmansk en arrivant dans ce port et par la ville qui se délite. Donc, vous avez inventé par-dessus cela une histoire qui est celle d'une famille aux prises avec la grande histoire. Mais il y a aussi une question, évidemment, d'environnement, une question d'écologie. Est-ce que ce qui vous a aussi saisie à Mourmansk, c'est, quand vous dites le délitement de la ville, c'est aussi une question d'environnement qui se dégrade.
Bien sûr, d'ailleurs, dès les premières pages du roman, je relate quelque chose qui m'a absolument saisie en arrivant, c'est que la neige est noire. À des kilomètres et des kilomètres à la ronde autour de la ville, elle est pleine de poussière de charbon, de poussière de pollution. C'est que quand on traverse les forêts, une bonne partie des forêts sont mortes à cause des émanations, des différentes pollutions. Et encore, je me suis pas promenée avec un compteur Geiger, sinon je pense qu'il se serait affolé dès que je me serais approchée du port. Donc c'est vrai que on a sous les yeux quand même un état de dévastation de la nature et donc de l'environnement des gens, parce que ça a évidemment des répercussions sur la santé. Et c'est vrai que ça aussi, ça fait partie du saisissement. C'est pas que un délitement physique parce qu'il y a des bouts de béton qui tombent du haut des immeubles. C'est parce que l'air qu'on respire, l'eau qu'on boit, tout est a été quand même totalement souillé, transformé par le fait qu'on n'y a attaché aucune importance. Au fond, on a pris l'environnement pour une poubelle.
Et l'histoire, du coup, comme l'environnement, sont aussi des personnages centraux de votre roman, Oubliez Clara. D'ailleurs, parmi les personnages principaux, on trouve un ornithologue, un géologue et un pêcheur. Alors, c'est l'environnement, mais c'est aussi l'environnement du côté scientifique. Et on sait que la science, en tous les cas pour vous, puisque vous êtes une ingénieure au départ, Isabelle Autichier, la science est fondamentale. La science pour nourrir, pour servir l'environnement.
La science pour comprendre d'abord. Vous faisiez allusion tout à l'heure au fait que je suis présidente du WWF, c'est parce que c'est aussi une organisation qui est basée sur la science. Moi, je pars pas d'idées préconçues, je parle pas de Yaka Faucon. Je me dis voilà l'état des lieux, voilà quand on mesure, quand on compte, quand on observe, voilà tel qu'est le monde autour de nous. Et dans ce roman, en fait, je m'en suis aperçue à la fin. Je me suis rendu compte que la nature, bien qu'elle soit malmenée, c'est quand même elle qui va inspirer, pour ne pas dire sauver, chacun de mes trois personnages principaux. Et que finalement, que ce soit les oiseaux, que ce soit le monde marin, ou que ce soit pour Clara, la toundra et les éleveurs de rennes, c'est au fond grâce à cette nature qu'ils vont aussi retrouver des forces mentales pour lutter contre la violence quand même de la société dans laquelle ils évoluent.
La grand-mère de votre ouvrage, la fameuse Clara, Isabelle Autichier, est déportée au goulag. On l'apprend en lisant votre livre. Et puis elle passe quelque temps sur une île, l'île Oren, c'est en tout cas comme ça que vous l'appelez, qui est peuplée de nénettes. Qui sont les nénettes? Est-ce que vous en avez rencontré? Est-ce que vous vous êtes documenté sur eux?
Alors, j'en ai pas rencontré. Je connais ces peuples depuis longtemps parce que je m'intéresse au Grand Nord. J'y navigue par ailleurs depuis pas mal de temps. Donc, je connaissais ces peuples d'éleveurs de rennes qui vivent dans toute la Sibérie russe et qui sont comme quelques endroits dans le monde, un peu les derniers dépositaires d'une certaine forme de civilisation, d'une certaine forme de vision de la nature, de l'homme. Et je trouve que ce sont des richesses qui, malheureusement, sont en train de disparaître petit à petit et qui nous feront peut-être défaut un jour. Donc voilà, je connaissais ces peuples et je me suis redocumentée quand j'ai écrit ces passages-là, mais c'était pas une découverte pour moi.
Et les pages sur les oiseaux, puisqu'il est beaucoup question d'oiseaux, on en voit beaucoup, je suppose, quand on navigue des oiseaux. Est-ce que vous avez eu besoin de travailler sur ces oiseaux? Est-ce que vous avez fait appel à vos souvenirs, qui sont d'ailleurs pas si lointains, puisque vous continuez de naviguer, Isabelle Autichier?
Oui, bien sûr. Alors, il y a les deux. Il y a ce que je continue à vivre. Il y a, par exemple, un passage où ils approchent d'une île qui s'appelle l'île aux ours et ils voient cette falaise comme une dentelle de pierre absolument habité de partout par des milliers d'oiseaux marins. Ça, c'est des choses que j'ai vues. Donc, c'est des souvenirs que j'ai aussi envie de partager parce que c'est des moments assez magiques quand on est au pied de ces falaises. J'ai quand même retravaillé un petit peu parce que j'aime bien être précise.
Tous les noms d'oiseaux sont très précis,
scientifique,
sont beaux.
Voilà. Et je trouve ça très beau d'ailleurs. J'aime bien les langages techniques comme le langage de la mer, mais d'autres langages techniques parce que J'aime bien le fait que chaque mot désigne quelque chose de précis, et les noms des oiseaux, et leurs cris, et leur vol. Pour moi, ce sont des richesses.
Et il y en a un, je crois, que vous appréciez particulièrement, non pas de langage technique, mais d'oiseau. Et cet oiseau a inspiré un fameux poème. On va l'écouter, en tous les cas, on va en écouter un extrait, lu par Denis Podalydès.
Souvent, pour s'amuser, les hommes d'équipage prennent des albatros, vastes oiseaux des mers, qui suivent, indolents compagnons de voyage, le navire glissant sur les gouffres amers. À peine les ont-ils déposés sur les planches que ces rois de l'azur, maladroits et honteux, laissent piteusement leurs grandes ailes blanches comme des avirons traîner à côté d'eux. Ce voyageur ailé, comme il est gauche et veule, lui n'a guère si beau qu'il est comique et laid. L'un agace son bec avec un brûle-gueule, l'autre mime en boitant l'infirme qui volait. Le poète est semblable au prince des nuées qui hante la tempête et se rit de l'archer. Exilé sur le sol au milieu des huées, ses ailes de géant l'empêchent de marcher.
Vous aurez nécessairement reconnu l'albatros.
Évidemment, oiseau plutôt du Grand Sud d'ailleurs que du Grand Nord, mais un oiseau. Ce poème est très beau, j'allais dire très réaliste, parce qu'effectivement, ce sont des oiseaux qui volent quasiment sans battre des ailes, puisqu'ils utilisent les ascendances, les courants d'air. Donc ça, c'est magnifique, hein. On voit ces animaux qui planent comme ça dans un ciel qui est quand même souvent assez tourmenté dans le Grand Sud. Donc on a l'impression d'une toute puissance, en fait, quand on les voit. Et pourtant, effectivement, quand on les voit à terre, puisqu'ils reviennent quand même nichés à terre, ils se dandinent comme des espèces de grosses oies, et ils sont tout à fait pataux, et ils sont absolument pas adaptés à la terre. Ils sont merveilleusement adaptés à leur environnement marin, par contre.
Il y a, Isabelle Autissier, évidemment, dans Oublier Clara aussi, de très nombreuses pages descriptives sur un chalutier, sur la navigation en mer, sur la pêche, sur les tempêtes. Alors, est-ce qu'il y a des points communs, pour vous qui écrivez et qui naviguez, est-ce qu'il y a des points communs entre écrire et naviguer ?
Si je devais trouver un point commun, je dirais que c'est une certaine forme d'engagement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas bien naviguer si on n'est pas totalement présent entièrement au moment où on navigue, à la fois pour observer, pour comprendre, pour décider, pour agir. Par exemple, je n'écris pas du tout quand je suis en mer, parce que je suis en mer et ça me prend toute mon énergie, toute mon attention. Et c'est bien comme ça, c'est le ici et maintenant, quoi. Et je pense que dans l'écriture, finalement, c'est ça aussi, c'est une forme d'engagement aussi, puisque je livre des choses de mon imaginaire, mais j'ai besoin aussi, quand j'écris, d'être totalement à ce que je fais. Il n'y a même pas de musique, il n'y a même pas de bruit, il n'y a pas de téléphone, il n'y a rien. Je suis chez moi, un peu enfermée chez moi, devant mon ordinateur. Et du coup, ça me permet aussi d'être extrêmement présente à ce que je fais. Et voilà. Et dans les deux cas, je trouve que ça donne beaucoup de sel, beaucoup de puissance à ce qu'on fait, parce qu'on y est totalement investi. Et je crois qu'on souffre beaucoup dans la vie, les uns et les autres, de faire 36 choses à la fois et de déjà penser à la chose d'après alors qu'on n'a pas fini celle d'avant. Mais là, dans les deux cas, pour moi, je trouve que c'est aussi une façon de se ressourcer, finalement, que d'être à fond dans une activité et de pas être en partage avec 36 choses, quoi.
Vous n'écrivez pas en mer, dites-vous. Est-ce que malgré tout, la mer inspire des histoires? En tous les cas, est-ce qu'elle est propice à l'imagination?
Complètement. D'abord parce que y a des moments, il y a des temps. On est en mer très souvent dans l'observation, dans l'attente. Ou si vous barrez, par exemple, vous allez barrer pendant 3 heures, 4 heures, ben votre esprit voyage. Au bout d'un moment, vous avez comme les réflexes pour passer les vagues et pour garder le bateau à son cap. Il y a toute cette liberté de regarder cet horizon et de se raconter déjà à soi-même des histoires, de laisser son esprit vagabonder. Et donc, c'est oui, des sources d'inspiration, absolument. Des moments où, voilà, on va se souvenir de certaines choses. Encore une fois, on va se raconter à soi-même déjà des histoires, quoi.
Est-ce que vous diriez que c'est aussi la continuation logique d'une forme de solitude habitée, puisque vous naviguez seul en général? Vous avez des pages là sur le monde marin, et on va y venir, hein, sur le métier de pêcheur, mais en l'occurrence, vous êtes plutôt seul quand vous naviguez.
Alors, j'ai été très longtemps, pendant toutes les courses à la voile que j'ai faites, j'ai fait plutôt seule.
En solitaire, ouais.
Voilà. Maintenant, c'est le contraire. Maintenant, j'ai un bateau qui n'est pas un bateau de course, c'est plutôt un bateau de, je sais pas, de découverte, d'aventure, c'est un grand mot, mais... Donc là, maintenant, au contraire, j'emmène des gens qui peuvent être des scientifiques, qui peuvent être des écrivains, des sportifs, des... Au contraire, maintenant, je partage beaucoup plus ces temps en mer. Mais les deux sont bien.
Je disais justement que vous écriviez sur le métier de pêcheur dans Oublier Clara, sur la dureté, je dirais, du métier de pêcheur. Alors dans le livre, c'est la pêche traditionnelle, hein, ça n'est pas la surpêche. On lit des pages de violence, de cette dureté du métier. Et je voudrais vous proposer d'écouter une autre écrivaine qui est à la fois écrivaine et navigatrice, qui a écrit sur cette violence du métier de pêcheur et sur la violence de la mer. C'est Catherine Poulain.
Bien sûr.
Vous avez lu son livre, bien
magnifique.
Sûr. Catherine Poulain était l'invitée de Laure Adler en avril 2016 sur France Culture. Écoutez-la.
La pêche la plus dure, c'est la pêche au crabe. Mais toutes les pêches peuvent être extrêmement dures. Et toutes les pêches peuvent être extrêmement dangereuses aussi. Mais le crabe, oui, c'est la plus violente, dirons-nous. D'abord, c'est sur la mer de Bering, qui est une mer autant elle peut être ennuyeuse, et alors on l'appelle la Bering Sea, la mer de l'ennui. Et autant c'est la Bering Sea, la mer qui est de toutes les fureurs, toutes les tempêtes, toutes les... Et puis le travail est très dur parce que ces casiers sont énormes. Quand il y a de la gîte, c'est une force aveugle et redoutable lorsque il balaye le pont à la moindre faute du gars qui s'occupe des hydrauliques et qui remonte donc les casiers. La moindre petite erreur, le casier peut frapper quelqu'un et donc le tuer, l'écraser. Le travail est aussi extrêmement soutenu. Et donc, l'épuisement, avec l'épuisement, il y a toujours un moment où le corps fatigué fait une erreur. Voilà.
Isabelle Autissier.
Oui, elle raconte ça avec une petite voix toute douce et toute tranquille. Je trouve ça absolument magnifique, mais elle a parfaitement raison. La pêche reste un métier très dangereux, même si aujourd'hui, on a quand même travaillé sur ces questions-là. Mais ça reste un métier physique, ça reste un métier où, elle l'a dit, on manipule des charges, on manipule des choses lourdes et difficiles. Et puis, pour moi, ce qui est important, c'est que ça reste un métier de chasse. Or, il n'y en a plus beaucoup, les agriculteurs, les éleveurs, on est loin de tout ça. Là, on va à la rencontre de la vie sauvage et on essaye de capturer cette vie sauvage. Et moi, c'est ce qui m'avait frappé puisque j'ai eu la chance d'embarquer sur des bateaux de pêche assez régulièrement, puisque vous l'avez rappelé, je suis ingénieur des pêches au départ. On a l'impression qu'on est un peu à l'aube de l'humanité quand on voit le regard de ces hommes qui regardent le chalut qui remonte, qui évalue la pêche, qui il y a une espèce d'excitation, même chez des marins qui ont des années et des années, des dizaines d'années de capture et de pêche, ça reste quelque chose de très fort, quoi.
Isabelle Autissier, je disais tout à l'heure que vous êtes à La Rochelle, là, en ce moment. Votre bateau, il est à La Rochelle ?
Pas du tout. Mon bateau est à Tromsø, au nord de la Norvège, au nord du cercle polaire, puisque mon plaisir, c'est de naviguer plutôt dans les extrêmes de la planète, extrême sud, extrême nord. Et donc voilà, en gros, il est près du terrain de jeu.
Pourquoi donc ?
Pour plusieurs raisons. D'abord, ce sont des endroits que je trouve d'une beauté absolue qui me touche énormément. Les glaces qui plongent dans la mer, les icebergs, la couleur des eaux, les baleines et tout ça. Et voilà, pour moi, quelque chose de très fort. Ça reste la plupart du temps une nature qui bien sûr est impactée par l'homme, parce que toute la planète est impactée par l'homme, mais qui est quand même une nature relativement vierge, relativement... Voilà, on peut vraiment croiser des animaux sauvages, on peut passer du temps à les regarder, on peut... chose qui n'existe plus sur la plupart des autres endroits de cette planète. Et puis, parce que leur difficulté fait ce que je disais tout à l'heure et que j'aime beaucoup... qu'il faut beaucoup de concentration et qu'il faut beaucoup être... c'est non seulement une attention, mais on est dedans obligatoirement, j'allais dire. Parce que ça change, parce que c'est un petit peu dangereux, parce qu'il faut tout le temps être aux aguets. Et moi, j'aime bien cette forme de tension qui donne vraiment, pour moi, du prix aux instants et une force à la vie qu'on mène là-bas.
Isabelle Autissier est notre invitée ce matin. Isabelle Autissier, navigatrice, présidente de WWF et... auteur de romans, de contes ou d'essais. D'ailleurs, je crois que votre spectacle Contes de mer se poursuit, en tous les cas cette année-là, et depuis quelques années il tourne un peu partout, Isabelle Autissier.
Absolument.
Le dernier roman s'intitule Oublier Clara, et dans ce roman vous écrivez ceci. Yuri, qui est votre personnage principal, eut une vision de la Terre comme un grain de poussière dans l'obscurité de l'univers. Dans un de ses recoins, des humains se blottissaient autour de feux depuis des millénaires. Survivants, pour combien de temps encore? Et j'aimerais vous demander, Isabelle Autissier, si c'est le genre de question qui peut vous réveiller la nuit.
Absolument. Alors, depuis quelques années seulement, pendant longtemps, finalement, je le savais, mais j'ai l'impression que plus je travaille sur ces questions d'environnement, plus je vois l'urgence, plus je vois l'ampleur des défis qui se présentent à nous, plus effectivement, ça me mobilise bien sûr, mais ça m'inquiète. Parce que je vois qu'on va pas assez vite. On a des solutions, mais on les met pas en œuvre de manière assez rapide. Et je me dis que, au fond, nous allons globalement en souffrir. Nos sociétés, nos modes de vie vont en souffrir, et pas les générations à venir. Les générations qui sont déjà là, bien vivantes sur cette terre.
Et qui peuvent, pour le coup, de redonner un peu d'espoir et de confiance, parce que les jeunes, comme vous dites, se mobilisent grandement pour agir.
Absolument, mais ils ont raison. D'ailleurs, on a vu les mobilisations pour le climat, mais là, on parle en ce moment beaucoup de biodiversité, qui est le deuxième grand problème qui est devant nous. Les jeunes sont d'ailleurs très conscients que leur vie ne va pas être la même que la nôtre. Ils le disent, et ils ont raison de nous interpeller là-dessus, puisque eux ne sont pas encore en place pour prendre les décisions, et ils ont besoin que nous prenions les décisions pour faire avancer les choses, pour qu'ils ne se retrouvent pas, eux, devant des situations ingérables.
Oui, alors justement, vous disiez, on ne va pas assez vite, et c'est peut-être la rencontre en termes d'urgence, en termes de temps, avec cette dégradation qui, elle, va extrêmement vite, qui est la plus effrayante. Là, je vais me tourner vers Isabelle Autissier, présidente donc du fonds du WWF, puisque cette semaine s'est tenue une conférence de scientifiques venus du monde entier, d'experts, donc de la biodiversité. Aujourd'hui même, ils doivent adopter le premier rapport scientifique mondial sur l'état de la biodiversité. Il sera rendu public lundi. Et sur ce rapport, en fait, on peut dire, même si on a quelques idées, il n'est pas rendu public, mais depuis quelques jours dans la presse, des conclusions sont sorties. Et ce rapport semble corroborer les conclusions du vôtre, de Planète Vivante fin 2018, qui annonçait une baisse de 60% des populations vertébrées en 40 ans. C'est là qu'on se dit, ça va très vite. Pourquoi ça va si vite et pourquoi nous n'allons pas aussi vite?
Alors, ça va très vite parce que nous sommes très nombreux et très voraces. L'empreinte en termes de biodiversité, elle est 4 fois plus importante pour les pays riches que pour les pays pauvres. Faut pas oublier ça. Et dans les pays pauvres, beaucoup d'êtres humains, des milliards d'êtres humains vivent très directement de la nature. Mais nous aussi, nous on s'en rend moins compte parce que on se rend pas compte que c'est la nature, les arbres, les plantes, les animaux qui vont épurer l'air, épurer l'eau, faire un sol qu'on va pouvoir cultiver. J'aime bien raconter que 50% de l'oxygène que nous respirons vient du plancton marin. Si ce plancton est affecté, qu'est-ce qu'on va faire? On va être en détresse respiratoire. Et au fond, en 50 ans, nous avons mis à mal quasiment la moitié de la nature, quoi. Et aujourd'hui, c'est vrai que ce qui commence à fuiter des rapports de ces scientifiques, c'est que jusqu'à 1 million d'espèces sont à risque de disparition. Or, nous en avons décrites 1,3 million. Donc, on est quasiment sur le même ordre de grandeur. Donc, il faut imaginer que sur les espèces que vous connaissez autour de vous, vous allez en supprimer 80%. Il y en a plus, bien sûr. Il y en a beaucoup qu'on sait qui existent, mais qu'on n'a pas décrites. On imagine qu'il y a à peu près entre 8 et 9 millions d'espèces, sans parler des bactéries et des virus. Mais c'est quand même colossal. Et ça veut dire que des pans entiers de cette nature qui nous fait vivre vont s'écrouler. Parce que, vous savez, la biodiversité, c'est un peu comme le Mikado. C'est tous les petits bâtons qui reposent les uns sur les autres. Donc, quand vous enlevez les bâtons d'en dessous, vous faites s'écrouler la pile. Maintenant, on sait ce qu'il faut faire, parce que on sait les causes principales. Et la grande cause principale de la disparition de ces milieux, c'est justement que nous nous sommes attaqués, nous avons accaparé les milieux de vie. Nous avons asséché les zones humides pour cultiver, nous avons coupé la forêt pour mettre du soja pour nourrir de vaches, nous avons étendu nos villes sur des terres arables ou là aussi sur des milieux naturels. Donc, le fait de réfléchir en termes alimentaires, c'est déjà une première réflexion. Et là, on sait ce qu'il faut faire. Il y a un deuxième grand sujet, c'est la pollution. On parle en ce moment beaucoup du plastique, mais il y en a bien d'autres. Il y a les pollutions issues de l'agriculture, de la chimie. Là aussi, on sait ce qu'il faut faire. Voilà.
À chaque fois, on sait ce qu'il faut faire. D'ailleurs, l'IBES, hein, la plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques, doit proposer dans son rapport des pistes et des solutions. Et pour ne pas rester sur cette idée d'effondrement programmé, pour le dire rapidement, vous-même, avec le WWF, Isabelle Autissier, vous organisez aujourd'hui même, hein, samedi, une mobilisation citoyenne. Elle doit prendre quelle forme ? C'est en amont des deux journées du G7 environnement à Metz aussi, hein, qui auront lieu demain et après-demain.
Ça va être une forme de, oui, une mobilisation citoyenne avec une certaine forme de théâtralisation, on va dire, qui sera un peu marrante aussi. Donc ça va se passer juste à côté de Beaubourg. Donc j'invite plutôt les Parisiens, bien sûr, à venir nous rejoindre. Mais moi, je voudrais quand même aussi, et le WWF insiste beaucoup sur les solutions. Voilà, on peut en trouver d'autres, mais on en a déjà beaucoup à notre disposition. Il faut que tout le monde, que ce soit les États, les entreprises qui ont aussi un rôle, les citoyens, les collectivités. Voilà, il faut que maintenant, tout le monde s'y mette. C'est comme pour le climat, c'est le pendant du climat en quelque sorte dans les deux grands sujets qui vont nous occuper pour le siècle qui est en cours et qui vont déterminer notre avenir.
Donc il faudrait parvenir à un accord comme celui de 2015 sur le climat et qu'il soit appliqué réellement.
C'est ce qu'on espère pour 2020 où il y a une très grande conférence sur la biodiversité qui va avoir lieu en Chine. Et aujourd'hui, tous nos efforts tendent à mobiliser justement à la fois les États pour qu'ils prennent des vrais engagements, qu'ils tiennent, mais aussi voilà, toutes les communautés, quelles qu'elles soient. Tout le monde a sa part à faire.
Bon, eh bien, merci. On suivra bien entendu tous ces dossiers. On a navigué grâce à vous, Isabelle Autissier, à travers les mers, à travers la littérature, puisqu'écrire et naviguer, c'est aussi agir sur le monde pour en arriver à votre engagement. Et on va se quitter bien entendu en musique avec Schubert, interprété par Richter, c'est la Wanderer Fantasy et c'est votre choix. Je rappelle le titre de ce livre, Oubliez Clara, paru aux éditions Stock. Un grand merci à vous Isabelle Autissier et un merci aussi à François Bitard qui a permis la liaison avec La Rochelle.